ToraBox.com. Pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous retransmet un enseignement de Madame Vanessa Benzaken. Bonne écoute et bon limoud.
Donc par rapport à l'idée de la donc de Atzlo, de la paresse, il faut faire excessivement attention de pas utiliser ces termes, et que quand il traîne les pieds, eh ben tu lui donnes des directives énergiques. Encore une fois, je précise énergique. C'est pas l'idée maintenant de dire tu pourrais si tu le sens faire ton lit s'il te plaît, si ça te prend un premier jour de printemps. Non mais ça va pas ou quoi? Tu lui dis fais ton lit, donne des directives, d'accord? Mais pas de la moralisation maintenant et pas des reproches et pas des critiques qui portent sur la personnalité. Ah oh là là, elle a un poil dans la main, je fais rien à la maison. Pourquoi tout ça? C'est complètement superflu. Complètement. Alors maintenant, je voudrais passer avec vous sur un autre exemple. Une histoire que rapporte le Rav Jacobson et qui est un peu dure sur la notion de idiot. C'est-à-dire sur la notion de capacité de l'enfant, capacité de intellectuel. Ouais, d'accord. Alors, le Rav dit... Nous, on a dû traiter beaucoup d'enfants qui ont une mauvaise expérience du relationnel avec leurs parents parce qu'ils n'étaient pas assez kishroniim. Est-ce que c'est kishroniim? Qui n'étaient pas assez doués à l'école. Il dit, on ne peut pas imaginer à quel point aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui est un terrain vraiment qui peut causer beaucoup de problèmes. On est dans un contexte éducatif, on va dire, de matzlichanut me'od me'od chazaka, c'est-à-dire que on prône beaucoup la matzlichanut, le fait d'être metsuyan, de réussir. J'avais entendu de la rabbinite Yemima Mizrahi que dans metsuyan, il y a Yavan, vous n'avez pas remarqué, non? Il y a les lettres de Yavan. Donc il y a comme ça une compétition pour aller au plus performant, et celui qui n'est pas assez performant, on peut l'aider chimiquement éventuellement. Ouais. C'est très impressionnant. C'est pas en concordance avec notre optique à nous, mais c'est le système tel qu'il existe aujourd'hui. D'autre part, il existe toutes sortes d'intelligences différentes. Si un parent, il a une sorte d'intelligence vive, rapide, donc si un enfant, il remarque qu'il n'est pas rapide, il peut interpréter ça comme une limitation au niveau de ses capacités intellectuelles. Et c'est souvent une erreur. Parce qu'il y a plein de profils. Il y a des gens qui ont une intelligence qui est pas rapide mais profonde. Une soukchel klita, une forme d'intégration qui est différente. Il y a des enfants qui intègrent très très vite tout en un clin d'œil, mais ça reste en surface. D'autres enfants qui mettent plus de temps, mais ils se rappellent de tous les détails, et ils mettent 3 heures pour réviser. Pourquoi? Parce ils ont du mal à trier. Ils veulent tout apprendre en même temps. Ce sont des choses vraiment qui ont été vérifiées. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont une autre forme d'intégration. Ils sont parfois même encore plus intelligents, ceux-là. Je ne vais pas vous dire, mais pas mal de génies du monde... un peu partout, même du monde scientifique, était pas bon à l'école, hein, je voudrais pas vous dire. C'est quelque chose qui a été... Ouais. Donc ça veut dire que... Il y a certains parents qui sont très très lechoutsim de ça, très sous pression de ça, et que si l'enfant ne donne pas satisfaction à l'école, ils se sentent eux remis en question, et ils ne vérifient même pas. Un peu plus avant, si le corps enseignant leur dit de faire ceci et cela, ils vérifient même pas par eux-mêmes, ils obtempèrent, ils obéissent docilement. Le parent, il doit être derrière l'enfant, il doit donner le dos à l'enfant, il doit avoir confiance en l'enfant, vérifier ce qu'il doit vérifier, c'est sûr, il n'y a pas de doute sur ça, mais pas accepter tout comme du petit lait. Et comprendre qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, ce serait dommage de réduire à une seule forme, que celle qui est la plus impressionnante, la plus, on va dire, qui fait le plus d'éclat, c'est celle-là qui est la meilleure. Non, c'est pas celle-là qui est la meilleure. Ça dépend qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Donc ici, il y a un témoignage que le Rav Jacobson a rapporté sur le fils d'un grand éducateur qui a écrit une lettre à l'âge de 21 ans à son père. Il n'a pas écrit pour l'envoyer à son père, il l'a écrit dans le cadre de sa thérapie. C'est-à-dire qu'il a tellement souffert, il était en détresse, qu'ils lui ont demandé d'écrire sur un papier comme si qu'il l'envoyait, pour se libérer un petit peu des sentiments. Donc ici, on va voir, je ne citerai pas tout le témoignage, il y a des passages un peu difficiles, donc je vais citer qu'une partie, mais c'est surtout les enseignements qu'on peut en tirer, Be'ezrat Hashem, qui sont intéressants. Alors ce jeune donc de 21 ans, je vous rappelle, fils d'un grand éducateur. Quand tu te mettais en colère contre moi, j'en déduisais que j'étais un méchant garçon, mais je ne savais que faire de cette sensation. Tu as réussi à me convaincre que j'étais coupable de tout. Tu m'as affirmé que c'est à cause de moi que tu es tombé malade. Pensais-tu vraiment que c'était de cette façon que tu pouvais m'aider à évoluer et surmonter mes faiblesses ? Alors, ici, on a quelque chose d'assez classique. Quand le parent est frustré, il peut tomber facilement dans ce qui s'appelle la culpabilisation. Il va culpabiliser l'enfant. C'est à cause de toi, tu me rends malade. Parce que l'enfant ne correspond pas à ce que le parent y veut. Il ne correspond pas à l'idée qui s'en est fait. Et donc, la frustration est tellement forte qu'il risque de glisser, Khalila, dans une critique qui touche très fortement à la culpabilisation. Alors après, papa, je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas. Comment pouvais-tu être aussi loin de moi ? Comment faisais-tu pour ne pas tenter de comprendre la souffrance que tu me causais ? As-tu une seule fois essayé de m'aider, de m'enseigner ce que je devais faire ? Ou as-tu sans penser qu'il suffisait de me gronder, de me culpabiliser ? Ici, pareil, souvent, la critique, elle prend le pas sur la hadracha. Au lieu de donner à l'enfant une hadracha, lui dire ce qu'il faut faire, le parent, il se perd en critique pour soulager sa frustration, mais en fait, il n'a pas indiqué à l'enfant qu'est-ce qu'il doit faire. Ça, c'est très classique. Peut-être étais-tu irrité parce que tu ne savais pas plus toi-même ce qu'il fallait faire. Mais alors pourquoi pensais-tu que moi je le saurais ? As-tu jamais essayé de te mettre à ma place, de réfléchir à ce que je ressentais réellement ? As-tu tenté une seule fois de te représenter la souffrance de celui à qui on fait ressentir en permanence qu'il est un incapable, un coupable en toute chose et n'ayant plus aucune chance de pouvoir s'améliorer ? Ici, comment c'est possible que le parent ne ressente pas la détresse de l'enfant ? Parce que le parent, s'il arrive à ce stade de frustration, d'accord ? Eh bien, il est complètement recentré sur lui-même. Il est plongé sur lui-même et sur sa frustration, donc il ne voit pas l'autre. Il ne peut pas sentir pour l'autre, il ne peut pas s'identifier à l'autre, il ne peut pas se figurer même ce que l'enfant y ressent. Pourquoi n'as-tu pas compris que tes leçons de morale blessantes et humiliantes ne pouvaient pas m'être utiles ? Vous voyez, c'est ça les leçons de morale au moment de l'échec, oui. Quel est mon intérêt que tu me persuades que j'étais non seulement un raté complet, mais aussi un méchant et un pervers ? Je t'ai cru, avec naïveté et candeur, je t'ai cru, quand tu affirmais que j'étais aussi coupable de ta mauvaise santé. Mais toi, qu'as-tu gagné dans cette affaire ? Par chance, tu as fini par te décourager, et ces dernières années, tu as enfin cessé de me harceler. Aujourd'hui, je sais que tu t'emportais beaucoup contre moi. Tu t'emportais parce que je n'avais pas les qualités que tu attendais, parce que j'étais moins talentueux que tu espérais, et parce que ta frustration était énorme. Ici, il y a un point. Toute personne, elle a des sheifot, que je traduis par des aspirations, oui. Et c'est magnifique d'avoir des sheifot, et c'est très bien d'avoir des aspirations. Le seul problème ici, c'est que dans une optique juive, il faut allier aux sheifot un partenaire indispensable. Sans quoi ces sheifot, si elles proviennent d'un ego qui n'est pas metoukan, d'un ego qui n'est pas travaillé, alors ces sheifot, ces aspirations qui sont elles-mêmes quelque chose de positif, elles peuvent, Dafka, mener le Ben Adam dans des sentiers qui ne sont pas les bons. Quel est le partenaire qu'il faut adjoindre au Sheifot ? Qu'est-ce que vous dites ?
Hachem, non ?
Hachem ? Oui, c'est une façon de le dire. Je le dis d'une autre manière, mais c'est une façon de le dire, oui. Achna'a. Achna'a que je traduirai par acceptation. Oui, on va le traduire comme ça. Sheifa tamid tzricha lalechet im achna'a. Le Rav Boyer à Yerushalayim, je suis une formation là-bas, il nous a expliqué avoir connu des gens de grande qualité et de grande valeur qui ont perdu beaucoup d'années alors qu'ils ont plein de connaissances, mais qui étaient éternellement insatisfaits sur eux-mêmes, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient de grandes sheifot, mais il n'y avait pas l'achna. La achna, c'est difficile. Ça paraît contradictoire. L'aspiration, la sheifa, c'est quelque chose de puissant. L'ambition de vouloir faire ceci, de vouloir ça, pour d'imaginer des scénarios merveilleux pour toi-même ou pour tes enfants ou pour ton mari. Ça veut dire, c'est magnifique la sheifa, mais c'est une vague puissante. Il faut lui donner des gdarim. Il faut lui donner des garde-fous. Ces garde-fous, c'est la achna. C'est la capacité d'acceptation. Si tu as sheifa ve achna, tout ira très bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as la sheifa, tu as l'aspiration que tu veux ça pour tes enfants et ça, des choses extraordinaires et élevées. Mais n'oublie pas que on ne te doit rien. Et que si ça ne s'est pas encore réalisé, ce n'est pas ça qui doit conditionner ton bonheur. Vous avez compris ? C'est pas la finalisation de ta sheifa qui doit conditionner ton bonheur. Sinon, il peut se passer pas mal de temps jusqu'à ce que tu sois dans le bonheur. Vous comprenez l'idée ? Mais si tu es dans la sheifa, dans la achna'a, si tu as adjoint à la sheifa l'acceptation, tout le chemin, il sera bonheur. Vous avez compris l'idée ? Donc sheifa, jamais ne les annule pas, mais fais-les provenir de ce qui s'appelle un ego metukan, d'un ego qui a été éduqué avec de l'achna. Donc le parent, parfois, sa frustration entre le pa'ar, on va dire le décalage, entre le ratsoui et le matsoui, ce qu'il souhaite et ce qui existe, fait que sans s'en rendre compte, toute cette frustration, elle génère une vague de reproches et de critiques qui sont parfois acerbes et très très négatifs vis-à-vis de l'enfant. Et quand après, si ce parent, il est pris, on essaye de le raisonner, on verra que ça partait d'un bon sentiment. Mais ça n'a pas été géré, ça n'a pas été mis dans un... ça n'a pas été managé. Donc la sheifa, c'est extraordinaire, pourvu qu'elle soit alliée à la achna, à l'acceptation.
Excusez-moi, c'est un peu étonnant si c'était le fils d'un grand éducateur, parce que lui, il ne connaît pas ses principes...
Ce que je vais voir juste après. Il a dit même connu, je ne sais pas qui ça peut être, mais... Enfin, voilà. Sa frustration était énorme. D'accord. Donc ça, on a vu. Tu voulais un enfant brillant. Vous voyez ? À la place, qu'as-tu récolté ? Un enfant stupide. Oh, tu ne peux comprendre à quel point ce mot m'a traumatisé. Tu as tellement fait d'efforts pour que je m'identifie à ce terme. Même à l'heure actuelle, chaque fois que j'entends le mot stupide, je suis persuadée qu'il m'est adressé. T'y pêche. D'accord ? Vous avez compris l'idée ? À force de lui répéter un qualificatif négatif sur sa personnalité. Maintenant, chaque fois qu'il entend ce mot-là, c'est tellement imprimé sur lui qu'il est persuadé que ça lui est adressé à lui. D'accord ? Et quel merveilleux sens de l'humour tu avais ! Comment me présentais-tu à ton compagnon d'études ? Alors là, regardez, c'est incroyable. T'en souviens-tu ? Alors, regardez ce qu'il disait à son compagnon d'études, le père. Voici ma preuve ! Disais-tu avec un large sourire. Et lui demandait, que veux-tu dire par là ? Et toi, tu répondais, c'est la preuve que l'intelligence n'est pas héréditaire. Oui, tout à fait, c'est ainsi que tu me définissais, et en ma présence en plus, comme si je n'existais pas, comme si je n'étais pas un être humain, comme si je n'avais aucun sentiment, comme si je n'avais ni esprit ni âme. Je devais aussi garder contenance, esquisser un sourire en réponse à ta cruelle plaisanterie, car dans le cas contraire, tu aurais continué à te moquer de moi, tu te serais aussi moqué de mon manque d'humour. Alors là, j'arrive à un point qui est important. Le Rav Jacobson, il parle dans son livre de ce qui s'appelle la forme la plus négative, nocive de Bikoret, qui s'appelle Bikoret la'aganit. La'ag, c'est se moquer. D'accord ? Le la'ag. Hiya Bikoret, il marque dans le livre, j'ai pris exactement les mots, agru'a ve'achamura beyoter. C'est la critique la plus nocive, dangereuse, négative. Oui, c'est la pire. Il dit, elle est à proscrire totalement. Ça veut dire, autant il y a des critiques que des fois, dans certaines conditions, dans certaines situations, elles peuvent être productives. Autant celle-ci, Bikoret la Haganit, elle véhicule des messages hautement anti-éducatifs et elle est antithétique au Hinour juif. Voilà, ça c'est un truc incroyable. Regardez ce qu'il explique. Il dit, numéro 1, voilà tout ce qu'elle véhicule avec elle. Elle endommage la relation avec l'enfant de façon claire. Elle endommage la confiance mutuelle entre l'enfant et le parent. Elle endommage la sensation de soutien et de solidarité dans la difficulté. Et le pire, elle donne l'impression à l'enfant que le parent prend plaisir à constater l'échec de l'enfant, qu'il se divertit à ses dépens, hein, j'ai l'air d'être dur hein, quand je vous dis tout ça, oui. Qu'il a matière à composer sa prochaine blague sur son compte à lui. On peut même pas imaginer. On peut même pas imaginer ce que ça représente comme sensation. Maintenant, certains parents, ils disent, oui, bon, c'est une petite blague. Et puis même lui, il sourit. Ah, c'est bien mal connaître un enfant. Comme il dit ici, je devais garder contenance. L'enfant, il a honte. Donc il garde contenance, il fait comme si, il fait un vieux sourire. D'il y a 50 ans, il a ressorti de la boîte. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a encore plus honte de se montrer vexé. Donc il garde contenance. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas vexé? Il dit « Enchoum éter la assod d'avoir kazé ». Il dit « Il n'existe aucun éter ». C'est dur, hein? Aucune autorisation à l'achik. Aucune autorisation à l'achik de faire ça. « Enchoum béchoum mikre le abi abikoret la aganit ». J'ai repris exactement les mots du livre pour être médouyeket. Il n'existe aucun éther en aucune manière, dans aucune situation, d'exprimer une critique de façon moqueuse. Maintenant, justement, le parent, souvent, il croit que c'est moins grave. S'il met une petite blague, il détend l'atmosphère. Ah oui, mais ça, c'est pas connaître la définition du sens de l'humour, selon nous, les Juifs. Nous, notre optique de sens de l'humour, elle est kafoufa. Elle est soumise à ce qui s'appelle Ben Adam la Chavero. Aux règles qu'il légifère, l'homme et son prochain. Donc elle doit répondre à certains critères, le sens de l'humour. Il doit répondre à certains critères. C'est quoi le critère? Il dit le sens de l'humour, c'est être capable de rire de nous-mêmes, de nos propres bêtises, de nos propres incohérences, de nos propres erreurs. Ça, c'est le sens de l'humour. Il dit, mais rire sur quelqu'un d'autre? Il dit, on s'est éloigné là, on s'est éloigné de notre identité ashkafatique. C'est pas nous ça. Et c'est très facile à sortir, parce qu'encore une fois, je vous dis, le parent, il se laisse parfois berner par le fait que, bon, si tu passes ça avec la blague, en plus l'enfant il sourit aussi, ah ça va. Il te dit, za bikoret achamura beyoter. Parce que les messages qui passent, ils sont catastrophiques. Et le nézek, il est là. Le dommage, il est bel et bien là. L'enfant, il est vexé. Parfois, il ne le montre pas. Ça m'est arrivé, des choses comme ça, où j'ai lancé une petite blague. Moi, je suis un peu blagueuse, alors j'ai lancé une petite blague. Et je vois que l'enfant, il n'est pas content. Je dis, ça t'a pas plu? Non. Slicha. J'ai appris à faire ça, maintenant. Pourquoi je vais rentrer dans une chose pareille? Ben Adam la Chavero, Chamour. Donc, ici... Là, il le dit de façon très, très forte dans le témoignage. Mais ça nous donne cet enseignement-là qui est très puissant. Donc, un, ça endommage la relation, ça endommage la confiance mutuelle. Ça donne l'impression à l'enfant que le parent, il se divertit aux dépens de l'enfant. Et dernier point, ça imprime sur le tadmit de l'enfant. Il dit, « Dimui shel ishiyut dechouya ». Une image de personnalité qui invite le rejet. Rejeté. De Fia. Alors, il continue. Papa, j'aurais bien aimé être persuadé que tu avais raison. Car si c'est cela l'intelligence, alors j'espère de tout cœur ne pas en avoir hérité. Mais pour mon grand malheur, je n'en suis pas si sûre. Je crains que quelque chose ne m'ait été transmis dans les gènes. Même aujourd'hui, tu te moques encore de moi, surtout parce que j'ai peur de me marier. Il a 21 ans. Ne comprends-tu pas que je redoute de faire à mes propres enfants ce que tu m'as toi-même fait subir ? La seule chose qui m'encourage, c'est ce que tu m'as tellement répété, que je n'ai pas le sens de l'humour. Maudit soit ce sens de l'humour. Maudit soit la douleur et la souffrance qu'il m'a causée à moi et à je ne sais combien d'autres. Il y a encore une partie, mais je m'arrête là pour le témoignage. Ici, ça aussi c'est une crainte qui est souvent pas justifiée, qu'il dit, il craint de faire la même chose à ses enfants. c'est quelque chose qui n'est pas validé par la réalité. Au contraire, on a le libre arbitre et chacun, même en fonction de ce qu'il aura passé, il peut en sortir plus grand. S'il a subi une relation pas agréable, il peut d'afka prendre appui sur cette chose-là pour être un parent encore plus remarquable et exceptionnel. Parce que de sa sensibilité, il va développer une plus grande capacité à faire attention à ces choses-là. Donc, c'est jamais, il n'y a pas de déterminisme, encore une fois. Et ce qui avait été véhiculé il y a une cinquantaine d'années, qu'il y avait un processus comme ça de reproduction des comportements automatiques et systématiques, c'est faux. Au contraire, c'est un quitte ou double. Si l'enfant, en grandissant, il a pris conscience du côté négatif des choses qui se sont passées, au contraire, il est encore plus sensibilisé, encore plus qu'un autre, pour mieux réussir que la moyenne. Donc, il n'y a pas de déterminisme ici, Baruch Hashem.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, d'autres enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'articles. À bientôt.